Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Après une semaine de pause, je retrouve comme d'habitude l'expert de la lutte contre les gels et l'anti-gaspillage, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode des gels qui a ravagé la France la semaine dernière, de l'anti-gaspillage avec la participation spéciale de ta copine Stéphane Payani, du groupe Avril qui cède ses activités de transformation animale, notamment la marque Matine, ainsi que d'un nouveau rapport sur la food tech en 2020 et d'une caisse des Petrus envoyée à l'espace. On commence tout de suite avec un épisode triste pour l'agriculture française, notamment nos copains vignerons, avec une série d'articles sur l'épisode des gels de la semaine dernière. C'était sur Figaro, au chevet des vignobles, un cauchemar des feux et des glaces, ou sinon sur Les Échos, les récoltes des fruits de la vallée du Rhône compromises par les gels historiques. Olivier, cet épisode des gels liés au changement climatique était reconnu comme l'un des pire que l'agriculture française ait jamais connu.
Oui, effectivement, et tous ces articles mettent bien en avant la vraie problématique en soi, c'est pas le fait qu'il y ait eu du gel en avril, parce que c'est quand même assez courant. C'est vraiment le fait que ça ait... qui a eu une vague de chaleur, si vous vous rappelez, au
quelques
mois de mars,
semaines,
il a fait quand même jusqu'à 25 degrés. Mmh. Et ça a fait bourgeonner les arbres.
Plutôt que d'habitude.
Les bourgeons sont sortis. Mmh. Et du coup, avec la vague de chaleur qui est arrivée après, ça a gelé une
partie. La vague de froid, ouais, tout à fait.
Oui, la vague de froid, pardon.
Et surtout, c'est les bourgeons de la plupart des cépages précoces qui ont été impactés, comme les chardonnays, les gamets, les syrahs, qui sont les cépages où les bourgeons étaient déjà sortis.
Tout à fait. Et du coup, le premier article du Figaro est assez intéressant parce que finalement, le journaliste était vraiment avec un viticulteur.
C'est super intéressant.
Il a passé la nuit avec lui. Donc
Tout à fait.
On voit vraiment ce face à quoi ils combattent avec parfois les moyens du bord. Hein. Alors certains, il y a plusieurs techniques. Certains ont choisi d'arroser carrément soit leurs arbres parce que du coup, ça gèle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bourgeon, quand c'est gelé autour, il est maintenu à une température de 0 degré.
Tout à fait. Donc, ils appellent cette technique l'aspersion, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une des techniques. L'autre technique qu'on voit souvent à la télé, sur les réseaux.
Juste un point sur cette technique-là. Le problème, c'est que même si cette méthode, elle est efficace, on pourrait dire qu'elle consiste en quelque sorte à soigner les mâles par les mâles. Et quand la glace va fondre, quelques branches seront glacées et on aura quand même du dégât. Ils disent qu'ils vont avoir 20-30% de dégâts par rapport à 80-90,
ce
n'est pas une solution parfaite, tout à fait.
Ce n'est pas parfait, ça limite la casse. Et l'autre solution, c'est après de brûler de la paraffine, des bougies. Hein. Et du coup, ça, l'idée, c'est que ça fait une espèce de fumée au-dessus des vignes.
Tout à fait.
Qui va retenir, qui va empêcher un peu le froid de tomber sur la vigne.
Ça crée une espèce de microclimat artificiel, en fait,
voilà,
pour la température sur la parcelle. Ils disent que ça va peut-être augmenter jusqu'à 5 degrés environ. Donc, c'est très utile dans les descentes d'air froid modéré. Mais sous moins 4, moins 5 degrés, ça ne sert à rien, en fait.
Non, voilà, c'est parce que le bourgeon, il ne faut pas que ça descende à moins de moins 1 degré.
C'est ça, en fait. Il est très
donc
fragile.
C'est très, très fragile. Et il y a une autre solution, c'est brûler des feux de paille. Donc ça, on le voit aussi assez régulièrement.
Oui. Même si elle est quand même, dans certaines régions, elle est, on va dire, elle n'est pas interdite, elle est tolérée. Mais il y a une forte recommandation pour l'éviter parce que c'est une solution qui finit par polluer.
Et il y a une autre solution qui consiste cette fois-ci à mettre des câbles chauffants tout le long des rangs de vignes. Donc ça, c'est une solution très, très coûteuse. Donc c'est que les grands châteaux qui peuvent éventuellement se le payer.
C'est ça. Il y a aussi une autre solution qui est assez populaire, qui est installer des ventilateurs qui brassent l'air dans la culture. Sauf que là, pour cet épisode des gels, ils disent que c'est un épisode des gels des natures advectives. Ça veut dire que...
C'est pas commun. C'est vraiment une vague de froid qui est descendue cette fois-ci, alors que d'habitude, on peut avoir des phénomènes de gelée, mais...
Plus localisé,
plus
quoi.
Plus local. Alors que là, ouais, c'est vraiment une vague de froid qui est descendue sur une grosse partie de la France. Hein.
C'est ça.
Quand on parle de cultures qui ont été affectées, il faut bien voir que c'est à la fois la viticulture, l'arboriculture, mais c'est aussi quasiment toutes les régions françaises. Oui. Je crois qu'il y a deux régions qui ont été épargnées plus ou moins, dont la mienne, hein, l'Alsace.
Ah, tout à fait.
L'Alsace qui, bizarrement, d'habitude, il fait très froid. Et cette fois-ci, ils n'ont pas été vraiment concernés par cette vague de gel.
Ce qu'ils disent les articles, en fait, c'est que bon, les phénomènes des gels en avril, c'est quelque chose d'assez courant. Ce n'est pas inédit. Ce qui est inédit, c'est l'ampleur du phénomène, en fait, car quasiment toutes les régions viticoles en France ont été gravement touchées. Et en fait, selon les articles, il s'agit très certainement de la catastrophe agricole due au gel la plus importante depuis la révolution agricole.
Oui, c'est notamment Serge Zaka, qui est agrométéorologue chez ITK, agrométéorologue, je me répète. Et lui, en fait, ce qu'il note, c'est que l'épisode de gel, en fait, du jour au lendemain, on a perdu jusqu'à 35 degrés dans certains endroits.
35 degrés, c'est énorme.
35 degrés en deux jours, et même moins. Et du coup, c'est un changement soudain. C'est ce changement finalement au mois d'avril qui est vraiment inédit selon lui. Hein.
Ouais, pour illustrer tes propos, Olivier, par exemple, cette année, les cerisiers du Japon ont éclos à Tokyo le 21 mars. C'est la date la plus précoce depuis l'an 812.
En fait. Ouais, c'est vraiment le propre du réchauffement climatique là, qu'on voit. Hein. C'est dans le sens où c'est ce qu'on disait au départ, c'est le fait qu'il y ait eu une vague de chaleur avant.
Ouais.
Et les bourgeons sont sortis et cette vague de froid qui arrive quand même de temps en temps, qui a gelé ces bourgeons-là. Donc c'est vrai que ça, c'est des phénomènes qui sont par contre appelés à se reproduire dans les années qui vont venir.
Malheureusement, ouais, tout à fait.
Donc il va vraiment falloir trouver des solutions à ça.
Ouais, la lutte contre les gels deviendra, je pense, une des principales priorités des vignerons pour les années à venir. Parce que les gels, ils ont l'habitude, c'est que, comme tu disais, ils n'ont pas l'habitude, c'est d'avoir des températures si élevées en février-mars. Ouais. Et donc du coup, les bourgeons vont être exposés à ces risques.
Il n'y a pas vraiment de solution pour empêcher un bourgeon de sortir.
Non.
Donc du coup, en fait, les solutions à court terme, ça va être effectivement éventuellement travailler sur des assurances qui sont moins chères, parce que les assurances, a priori, pour ce genre d'aléas, sont très très chères. Parce que les assureurs savent que c'est des aléas qui reviennent, donc la prime de risque, elle est très chère. L'autre solution, ça peut être éventuellement de trouver des cépages ou des arbres qui vont être plus résistants ou qui vont bourgeonner un peu plus tard.
Oui, sauf que c'est un processus qui est long, quoi, que tu ne mets pas en place du jour au lendemain et tu demandes quelques années pour mettre ça en place. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est que c'est un problème qui ne touche pas que les vignerons, en fait. Même, par exemple, dans la Drôme ou dans les Derges, la quasi-totalité des productions d'abricots, des cerises et des pêches ont été gelées également.
Voilà, donc il faut s'attendre cette année à payer plus cher pour certains fruits, notamment l'abricot et la cerise.
Tout à fait.
Si, mais par contre, les pouvoirs publics, le ministre de l'Agriculture, invite quand même les Français à privilégier la production française parce qu'effectivement, si en plus on ne l'achète pas, ils n'ont plus vraiment d'intérêt à produire ce genre de fruits chez nous.
C'est clair, mais ça va vraiment poser un problème pour la filière parce qu'évidemment, comme tu dis, il y aura des fruits qui vont arriver d'autres pays où il fait un peu plus chaud, qui n'ont pas été impactés par ces phénomènes des gels et
on
qui
aura
vont
des
arriver avec un coût par kilo moins important et les Français peuvent, pour protéger leur pouvoir d'achat, favoriser ces produits-là et du coup impacter la filière française. Il y a même un arboriculteur en Ardèche, Olivier Fraisse, qui dit « Les fruits étaient déjà bien formés, que ce soit sur les abricotiers et dans une moindre mesure sur les cerisiers. Nous ne récolterons rien cette année. » Il estime les manques à gagner à 200 000 euros pour son exploitation.
Voilà. Donc là ce que va faire le gouvernement, c'est déclencher le plan de calamité agricole. Donc c'est un fonds qui existe et qui va normalement aider certains producteurs. Mais ça suffira probablement pas. Donc il va y avoir un peu de casse quand même dans certaines régions.
Bien sûr. Bon, Olivier, on continue dans les mondes agricoles avec un produit de saison qui met l'eau à la bouche. C'est sur Le Monde. Après une année 2020 plutôt bonne, l'asperge reste droite dans ses bottes en 2021. Un article sur une de mes passions, Olivier, l'asperge. Dans cet article du Monde, on fait les points sur la saison 2021 qui était plutôt bonne en fait.
Oui, et en fait, étonnamment, si vous vous rappelez, il y a un an, hein, pendant le premier confinement, on voyait souvent des articles ou des reportages télé sur ces producteurs d'asperges qui avaient peur, finalement, de perdre toute leur récolte. Donc, parce qu'il y avait deux problèmes. Il y avait un problème de débouchés, oui. Parce que les restaurants ont été fermés du jour au lendemain.
Et l'asperge est un produit des prestiges que se consomme particulièrement au restaurant, en fait.
Voilà, c'est un produit qui se consomme principalement au restaurant. Mmh. Et le deuxième problème, c'était un problème de main-d'œuvre. Il fallait trouver des gens pour aller cueillir les asperges dans les champs. Mmh. Donc là, en fait, finalement, on se rend compte avec le recul que la filière asperge française, elle a plutôt limité la casse. Hein.
Tout à fait.
L'article donne l'exemple d'une coopérative qui s'appelle Copada, qui a vu ses volumes baisser de 5 à 10%. Mmh. Donc, bon, ça va, c'est encore plutôt
gérable. Plutôt quoi.
Gérable. Ouais. Et l'avantage, c'est que comme les prix ont été en hausse, finalement, son chiffre d'affaires a progressé de 10%.
Oui, et comme les restos étaient fermés, qui absorbent quand même une partie importante de la production, c'était aux consommateurs de prendre les relais. Heureusement, au premier confinement, après s'être jeté sur les pattes, les consommateurs se sont tournés vers les produits frais et locaux, ce qui a permis à l'asperge de remonter la pente.
Et c'est aussi grâce, quelque part, aussi à la grande distribution. Il y a eu des initiatives locales de supermarchés et d'hypermarchés qui ont dit « Écoutez, on va vous aider à écouler la production ». Donc, c'est aussi grâce à eux que la filière asperge a pu tenir la route. Hein,
tout à fait. Et en ces débuts d'année 2021, les restos restent fermés, en fait.
Donc, oui, malheureusement. Ouais. Ça va peut-être ouvrir bientôt. Après.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend dans l'article, c'est que les prix du kilo de l'asperge, il est en augmentation par rapport à 2020. Donc intéressant évidemment pour les agriculteurs. Donc il est autour des 6 euros les kilos à la sortie des fermes. C'est qu'il y a une bonne nouvelle parce que ça va protéger en fait la valeur pour les producteurs.
Oui, un prix de 6 euros le kilo, c'est quand même c'est un bon prix. Hein, en plus.
Oui, enfin, oui.
Moi, je ne l'ai pas vu à ce prix-là. Hein, perso,
non, ça, c'est à la sortie de la ferme. Ce n'est pas les prix qu'on paye au marché.
Mais en tout cas, effectivement, c'est le prix au kilo sorti exploitation qui a augmenté de 50 centimes. Donc, ça veut dire quand même que la filière va pouvoir refaire aussi de la trésorerie, oui. et pouvoir être pérenne sur le long terme.
Oui, et je pense que les consommateurs, ils ont un peu marre de la fermeture des restos et les gens essaient de se faire plaisir à la maison. Et donc, on cuisine pas mal les asperges. Après une saison hivernale, on veut commencer à manger des produits de saison, du printemps qui donnent envie. Moi, je peux te dire que depuis quelques semaines, l'asperge, il est souvent dans mes recettes. Hein.
En 6 mois, on est tous devenus des bons cuisiniers. On espère.
c'est clair. Merci, Covid. Après, il y a aussi l'histoire du gel, parce que ça impacte aussi l'asperge. Mais oui. C'est pas pareil.
Ouais, l'asperge est en terre, donc c'est un peu moins. Mais en tout cas, il y a eu des températures qui sont descendues quand même jusqu'à moins 6 hein, dans
tout
la région landaise.
Ah, c'est pas donc idéal pour l'asperge.
Il y a un producteur landais qui estime qu'il a perdu 15 à 20% de sa production en 2 jours. Mmh. Le problème, je pense qu'on avait encore du gel cette semaine-là, il y a quelques jours, même encore cette nuit, à mon avis, il y a eu du gel. Mmh. Donc, à voir la semaine prochaine quels vont être les dégâts pour la filière asperge. Aussi, hein.
Oui, et après, les gels pour les asperges, ça peut impacter une partie de la production, mais après, pour les asperges qui ne sont pas encore sorties, en fait, ça va juste à ralentir, en fait, donc il faut juste qu'ils soient un peu plus patients. Ça finit pas par détruire la production. Et on apprend également, en fait, que c'est l'Allemagne, les premiers producteurs européens d'asperges. En fait.
Ouais, j'ai découvert ça, l'Allemagne est loin devant la France, hein. Et du coup, c'est effectivement... Mais je pense que c'est des asperges un peu plus fines que chez nous.
D'accord.
Nous, on a des asperges dans les Landes, c'est assez gros. Hein.
Ouais,
c'est... Et l'Allemagne est un gros producteur, effectivement, d'asperges au niveau européen.
Écoute, je ne savais pas. Olivier, on va continuer, mais maintenant, ce n'est pas un article. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est l'anti-gaspillage, avec cette fois-ci un super livre très utile qui va nous aider à sauver nos restes de la poubelle, sorti le 7 avril dernier.
Oui, et c'est la journaliste culinaire Esther Alpayani qui s'est lancée dans cet ouvrage avec des recettes assez étonnantes. L'ouvrage s'intitule « La cuisine des Borestes ».
D'accord.
Titre sympa, moi j'aime bien.
Ouais, ouais.
Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser des choses auxquelles on ne penserait pas. Par exemple, elle a une recette avec la peau de la pastèque.
La peau de la pastèque,
ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait avec?
Elle fait des pickles de peau de pastèque. Donc,
sympa.
Donc c'est assez intéressant, on découvre des choses des choses auxquelles on n'aurait pas pensé utiliser comme ingrédient.
Rien ne se perd, tout se transforme, en fait.
Voilà, voilà.
Et ce qui est sympa dans les livres, c'est que tout est classé par thématique. Donc, il y a les légumes d'abord, après les céréales, les poissons, les viandes, les restes des plats complets, et même comment utiliser les restes des boissons, en fait.
Oui, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, avec un reste de jaune d'œuf, un fond de bouteille de vin, du pain rassis. Et il y a à peu près 70 recettes dans l'ouvrage, ce qui est quand même pas mal. Hein. Elle a bien bossé, Estherelle. Et...
On la félicite. Olivier, je sais que c'est une copine à toi. Ça t'est dit de l'appeler peut-être pour qu'elle nous raconte davantage sur son livre.
Allez, appelons-la.
On va faire. Bah, écoute, on va l'appeler. J'espère qu'elle va nous répondre, Estherelle.
Allô.
Salut Estherelle, c'est Olivier. Je suis avec Daniel.
Bonjour Daniel.
Bonjour Estherelle.
On enregistre le podcast aujourd'hui, puis on s'est dit qu'on allait t'appeler vu qu'on parle de ton bouquin.
C'est trop gentil de penser à moi, merci beaucoup. T'as vu, j'ai une meilleure voix que tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, on avait quelques petites questions du coup pour toi. Hein. Alors, pourquoi un livre sur l'anti-gaspillage ? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à écrire un livre sur l'anti-gaspi ?
En fait, ça correspond à la manière que j'ai de cuisiner depuis très 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 longtemps et je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est en discutant avec mon éditrice, qui me suit sur Instagram depuis très longtemps, elle m'a dit, ça fait longtemps qu'elle voulait faire un livre sur le sujet, elle m'a dit, j'aime bien ton approche en fait. Elle me dit, parce que c'est très intégré à ta cuisine. Et j'avais dit, ah oui, j'avais même pas pris conscience de ça finalement. Et c'est vrai que c'est rien de révolutionnaire, hein. Franchement, c'est un retour à un bon sens qu'on a tous eu en cuisine, mais qui s'est un peu perdu avec une agro-industrialisation à outrance des préparations. On utilise moins de produits bruts et plus on va utiliser de produits bruts, plus on risque d'avoir de restes ou de parties qu'on met de côté un peu bêtement et qu'on n'utilise pas, qu'on ne tire pas à profit. Donc, c'est vraiment… Et puis, après, avec le premier confinement, on essayait tous de sortir au minimum faire des courses. Et c'était devenu une blague avec mon mari en me disant « Non, je ne prends pas ce qu'il y a dans le frigo parce qu'on ne sait jamais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à manger et tu vas encore faire 3 repas avec.
» Estherelle, tu réponds déjà en fait la prochaine question qui était justement de savoir si tu pensais que la crise sanitaire et les confinements qui a permis un peu de reconnecter les Français avec la cuisine, est-ce que ça les a permis aussi de prendre davantage conscience sur l'importance de ne pas gaspiller en fait ?
En fait, je pense que ça leur a fait prendre conscience de la problématique de l'approvisionnement. Tu peux pas décorréler la problématique du gaspillage de celle de la façon qu'on a de consommer et de faire ses courses. Parce que quand tu t'amuses pendant le confinement à te faire livrer un colis d'asperges ou de fraises ou d'agrumes qui normalement est pensé pour fournir un étoilé, par exemple, il y a eu plein d'appels comme ça sur les réseaux sociaux pour aider les producteurs, quand tu payes ces fraises-là un certain prix, tu n'as vraiment pas du tout envie d'en perdre le moindre gramme.
On est d'accord.
Et tu te dis, mais en fait, j'aurais dû raisonner comme ça depuis bien plus longtemps. D'un coup, les choses sont devenues beaucoup plus précieuses, j'ai remarqué. Elles n'avaient pas forcément venu d'étoilées, mais on était tellement enfermés chez nous. Oh, il faisait beau, on avait envie de plaisir, de soleil. Moi, quand je suis rentrée avec les premiers petits pois, ça valait tous les caviars du monde. Hein. Ça, c'était trop la fête à la maison. Et conclusion, c'était bien parce que des produits assez quotidiens ont repris leur vraie valeur importante.
Ouais, notamment
donc,
le pain.
Alors, le pain, c'est l'exemple. C'est l'exemple, effectivement, symbole du premier confinement. Je viens d'écrire un article là-dessus. Sur est-ce que les gens ont continué à faire du pain avec les confinements suivants. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, sur le pain, alors il y a eu le problème des boulangeries fermées. Puis aussi le fait que beaucoup de gens ont été désœuvrés. Et faire du pain, finalement, ça avait deux vertus. Ça rythmait la journée. Parce que c'est comme un bébé, hein, il faut s'en occuper toutes les 3 heures. Fallait penser à faire un... N'est-ce pas, hein, Olivier ? À part qu'il ne faut pas lui changer les couches. Hein, mais bon, un petit rot de levain, parfois, ça déborde et il faut nettoyer ça. Il y a quelques similitudes. Non seulement ça rythme le temps, mais je crois aussi que très inconsciemment, ça crée la vie à partir de 2 ingrédients, de l'eau et de la farine. Et le troisième, c'était le temps. C'était celui qui, d'un coup, on avait à disposition. On pouvait créer la vie. Et je crois que ça a eu une petite vertu psychanalytique. Dans une atmosphère très, très mortifère, les gens avaient le pouvoir de créer la vie. Ça les a un peu rassurés.
C'est sûr. Donc, et du coup, en fait, moi, j'ai découvert des ingrédients un peu insoupçonnés. Hein. Je me demandais comment tu as fait pour élaborer les recettes, parce que j'ai vu, par exemple, des pickles de peau de pastèque. Et du coup, pour moi, est-ce que tu as découvert la recette ou tu avais ça en tête et après, est-ce que tu as eu des ratés dans tes recettes ?
Alors, pour les recettes, tout bêtement, j'ai vraiment, je crois que c'est le livre que je laisserai à mes enfants. Il y a plein de recettes qu'on mange très, très, très souvent chez nous, en fait. Il y a des boulettes chez moi. J'achète pas de viande hachée pour faire des boulettes. C'est parce que j'ai fait un pot-au-feu 4 ou 5 jours avant, que j'ai utilisé le bouillon, que j'ai utilisé une partie des viandes, etc., que je vais faire des boulettes parce que comme ça, et je vais passer le pain rassis, le reste de viande que j'ai. C'est plus, moi, je cuisine en fonction de ce que j'ai envie de faire au final, et donc je crée des restes pour décliner toutes mes recettes. Donc, ça change un peu la logique. L'exemple que je donne aussi souvent, c'est le riz sauté. Moi, je ne fais pas cuire du riz pour du riz sauté. C'est quand je fais cuire du riz, je sais que d'office, je vais faire deux repas avec. Il va servir d'accompagnement à un curry, en général un curry végé, genre épinards, pois chiches, chou-fleur. Donc, du riz blanc avec, c'est super. Mais comme j'ai doublé la quantité, je sais que le lendemain ou le surlendemain, la moitié de boîte qui me reste pleine de riz froid, bah, elle va passer avec un petit peu de poulet rôti qui me reste encore dans le repas précédent, un petit jus de viande qui passe par là, les légumes, le poireau du fond du bac de légumes, et paf, je fais un super riz sauté. Donc, je considère même pas le riz froid comme un reste pour moi. C'est quelque chose qui a une vraie valeur en soi. Pour les ratés, je crois que la chose la plus… Alors, il y a deux produits qui ont une grande réputation pour les restes. C'est tout ce qui est fan de légumes verts, les navets, les radis, les carottes. Alors, c'est pas au goût de tout le monde. La soupe de fan de radis, ça va marcher si la fan de radis est archi extra fraîche. Si elle est un peu jaune, si elle a déjà traîné dans votre frigo deux jours, non, ça va vraiment pas être bon du tout. Alors que si la fan, elle est pimpante, oui, ça peut faire une soupe qui est assez proche d'une soupe de cresson. Alors déjà, il faut être amateur de ce genre de saveur. C'est un peu fort et piquant. Il en faut pour tous les goûts. Pareil, les fans de carottes, la botte que produit une fan de carottes, c'est assez énorme. Moi, je trouve que c'est très fort. En plus, c'est pas, si elles ne sont pas bio, ça peut être riche en nitrites. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de facile. Je vais en utiliser un petit peu, genre 2-3 hachés finement pour mettre dans une sauce crème, dans des blinis, un peu comme du persil. Mais je ne vais pas arriver à utiliser toute la botte. Il y en a une partie qui va partir dans mon compost. Alors après, il y en a qui la blanchissent, qui les hachent, qui les mélangent avec d'autres légumes et qui en font des tartes aux épinards, etc. Là, c'est vraiment une question de goût et d'acceptation. Donc, je recommande aussi donc à tout le monde d'avoir un compost à portée de main. Mais ça, en ville, on me dit oui, c'est difficile. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de composts communautaires qui se sont développés ces derniers mois. Nous, on en a un et à Paris et à la campagne. Et puis, parfois, je suis vraiment la bobo par excellence qui se trimballe son compost entre Paris et la maison de campagne. Ça m'arrive de prendre le train avec mon compost. Je connaîtrai à l'odeur.
Énorme.
Il est bien emballé. Il y a toute une technique. Mais un bon compost bien fait ne sent pas mauvais. À ce moment-là,
mais moi, j'ai mon beau-père qui fait aussi son compost. Donc, je connais ça. Je connais ça.
Voilà.
Bon, bah, en tout cas, écoute, on te remercie beaucoup, Estherelle. Et le livre est dispo on peut l'acheter en ligne. Dans toutes les bonnes librairies, hein, je pense qu'il est dispo
tout à
un
fait,
peu partout.
Il est bien dispo. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Non, merci,
puis,
merci à toi.
Ne jetez rien, surtout.
Non, on est 100% d'accord.
Allez, salut.
Merci, à bientôt.
Merci encore, à bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup, Estherelle, de cette participation spéciale. Olivier, on passe de l'anti-gaspi à une grosse actu dans l'agroalimentaire qui concerne les groupes Avril. C'était sur le Figaro. Avril cède ses œufs matines et ses activités d'abattage des porcs. Olivier, on apprend que les groupes Avril, énormes acteurs de l'agroalimentaire en France, hein, propriétaires des marques comme Les Yeux et Puget, et presque 6 milliards des chiffres d'affaires en 2020, a mis en vente ses activités de transformation animale.
Oui, et c'est un vrai message finalement de dire, nous on veut se recentrer sur ce qui fonctionne pour nous, à savoir les protéines végétales et tout ce qui est végétal. Donc, Matine, c'est pas un petit acteur. Hein. Matine, c'est à peu près 2 milliards d'œufs vendus par an.
Énorme.
Et
c'est un des leaders de je pense, du marché.
C'est un des leaders, c'est une des marques leaders. Hein. On connaît tous les œufs Matine. Et c'est aussi, finalement, non pas uniquement cette marque-là, mais aussi la marque d'ovoproduits. Les ovoproduits, c'est tout ce qui est produit
pour la restauration.
donc qui s'appelle OvoTeam. Et il y a également une partie qui est une activité d'abattage dans le port qui s'appelle Abera. Et tout ça, au global, ça fait quand même 8,5% du chiffre d'affaires. Hein, donc, c'est sur énorme. Un chiffre d'affaires de 6 milliards, c'est
oui,
pas petit.
Mais ce n'était pas l'activité la plus rentable.
Ce n'est pas l'activité la plus rentable parce que Matine, on le sait, dans les œufs, il y a eu beaucoup de choses hein, ces dernières années. Donc, il y a les attaques de L214.
Bien sûr.
Matine
a été fortement associée à l'élevage des poules en cage. La marque était notamment au centre d'une polémique en 2016 suite à la diffusion des images d'animaux maltraités dans les abattoirs qui fournissaient la marque, en fait.
Oui, et puis il faut voir aussi que la filière E a investi quand même beaucoup d'argent pour moderniser les poulaillers. Hein.
Oui, et cette transition-là, elle est coûteuse, en fait. Elle a coûté beaucoup d'argent pour les groupes.
Oui, parce qu'en fait, on leur a fait moderniser les poulaillers pour que ça reste des poules en cage, mais les gens ne veulent plus de poules en cage. Donc, ils ont investi de l'argent, finalement, qui n'a servi à rien.
Oui.
Puisque aujourd'hui, les gens veulent
des
poules
élevées
en plein air, etc.
Et même des marques comme Pool House qui tuent pas la poule, qui ont émergé et qui mènent le marché vers un autre.
Donc, finalement, Avril... ils viennent juste de l'annoncer parce qu'ils ont annoncé leurs résultats, donc on ne sait pas exactement qui est intéressé par ça. Mais en tout cas, c'est un vrai message et Avril, du coup, va se focaliser sur des activités plus rentables comme tout ce qui est protéines végétales à base de colza, mais également les biocarburants.
Tout à fait.
Donc ça, c'est des choses dont le groupe va se séparer d'ici quelques mois.
On a appris justement que l'activité des biocarburants, en fait, à base des colza, lancée il y a 2 ans, a une forte croissance et une forte rentabilité. Et en fait, ça a permis au groupe Avril de retrouver la rentabilité en 2020. Voilà. Donc, ils vont se concentrer sur ce qui marche et sur les tendances d'avenir qui est vraiment l'huile et les protéines végétales.
Mais ceci dit, on est quand même dans une tendance de consommation d'œufs assez élevée en France. Hein. Donc,
oui.
C'est pas non plus un marché qui est mauvais.
Mais ce qui veut dire que la personne ou la boîte qui va reprendre Matine, de toute façon, va devoir transformer l'activité pour proposer des œufs de meilleure qualité et des poules élevées d'une façon plus bienveillante, on va dire.
Tout à fait.
On va continuer, donc on va passer du groupe qui abandonne les poules élevées en cage pour s'en concentrer sur les végétales au fromage sans lait. C'est sur Wired, The Quest to Make Genuinely Cheesy Dairy-Free Cheese, la quête d'un fromage savoureux sans produits laitiers. Olivier, on apprend beaucoup sur les fromages sans lait animal dans cet article de Wired.
Oui, tout à fait. Alors, ça va faire un peu grincer les oreilles des fans de fromage français, hein, forcément. Hein. Mais en tout cas, il y a un vrai développement de ce qu'on appelle les fromages végétaliens ou les fromages sans lait. Je ne sais pas s'il y a un vrai nom pour ça, mais ça va du camembert à la noix de cajou, au Stilton à la noix de coco, des bûchettes de mozzarella à base d'amidon de maïs. Et en fait, c'est un secteur...
Ça ne te fait pas rêver, pardon.
Non, ça ne te fait pas rêver, mais moi non plus. Hein. Et c'est un secteur qui est vraiment en croissance, notamment aux États-Unis. Il y avait une croissance de plus 18% en 2019, alors que là-bas, les fromages traditionnels, la croissance était de plus 1% cette année-là.
Ouais, nous évoquons souvent chez It's Business, en fait, l'augmentation de la demande pour les alternatives animales qui sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs, notamment aux États-Unis, qui est un peu en avance par rapport à l'Europe.
Oui, tout à fait. Enfin, ils sont toujours en avance, hein, là-bas, ça c'est sûr. Et c'est un marché, les fromages végétaliens, c'est un marché qui est estimé, selon certaines prévisions, à 7 milliards de dollars d'ici 2030.
C'est énorme.
Donc, ce n'est pas un petit marché non plus. Et on a de plus en plus de startups qui se lancent.
Et même des acteurs traditionnels comme Bell, on a évoqué, qui lance une marque des fromages végétaux.
Alors, il y a plusieurs manières de faire du fromage à base de protéines végétales.
Mmh.
Et en fait, l'article est intéressant parce que ça s'intéresse au parcours d'un créateur de start-up, de la start-up Perfect Day, qui a quand même déjà levé plusieurs centaines de millions de dollars. C'est 360 millions de dollars déjà, donc c'est pas rien. Hein.
C'est énorme.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'on suit le parcours de ce créateur qui a cherché à voir pourquoi les fromages... sans lait, était déceptif. Donc là, on est au milieu des années 2010, hein, 2014, je crois. Et effectivement, je pense que ce que dit bien l'article, c'est que quiconque a goûté ces fromages-là confirmera que ce n'est pas du fromage. Mmh. Parce qu'on n'a pas forcément la texture du fromage, on n'a pas le filant, le goût. Et du coup, le fondateur de Perfect Day a cherché à voir ce qui faisait la différence pourquoi les fromages à base de lait étaient si différents. Mmh. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui faisaient que le fromage à base de lait était différent. Hein. Il y avait la caséine et il y avait une autre texture qui était là. C'est le composant, finalement, la caséine, c'est le composant coagulant qui permet au fromage de s'étirer ou de fondre. Et il y a aussi les protéines de lactosérum qui font finalement... combinées entre elles, ça donne au lait une texture
unique, quoi.
Unique, ouais. Goûteux, crémeux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'après plusieurs années de recherche et développement, Perfect Day a réussi à mettre au point une levure modifiée qui, lorsqu'elle est nourrie des sucres et des graisses, elle peut produire des protéines des laits, les mêmes qu'on retrouve dans les laits animaux, en fait. Et donc, les microbes génétiquement modifiés et finalement complètement retirés, de sorte que la protéine finale est finalement OGM et végétale. Je serais curieux de goûter pour voir si ça a vraiment le goût du fromage, mais on se rend compte que ça devient de la science-fiction, en fait.
C'est de la science-fiction, mais du coup, pour le coup, ça ne l'est plus. Puisque
oui,
c'est
de la science.
Ouais, c'est de la science. Et en fait, il y a pas mal de startups qui se lancent sur ce créneau-là. Donc, l'article donne quelques exemples. Hein, au-delà de Perfect Day, on en a une qui s'appelle New Culture qui utilise une méthode similaire de réplication de protéines pour produire des boules de mozza. On a la singapourienne Turtle Tree Labs, qui a créé des fromages de chèvre et même de chameau.
À partir des cellules.
À partir de cellules, voilà, dans des bioréacteurs, un peu comme la viande cultivée.
Ouais.
Et on a aussi un des gros acteurs de la viande alternative, hein, des alternatives à la viande, Impossible Foods, qui a lancé en octobre dernier, qui travaillait sur un prototype de Impossible Milk.
Ils sont forts, les Américains. Et en France aussi, on a notre lot des startups innovantes dans les secteurs. Hein. Je pense notamment aux nouveaux affineurs qui proposent des alternatives végétales naturelles au fromage, qui sont fermentées et affinées comme du fromage animal. D'ailleurs, après une levée de fonds de 2 millions d'euros début 2020, les startups françaises inaugurent sa première unité de production avec une surface des 1000 mètres carrés. Et on a appris, peut-être encore confidentiel, mais d'autres acteurs du fromage en France, assez connus, qui s'intéressent et qui se lancent dans les fromages végétaux. Donc, on verra l'arrivée de ces phénomènes en France. La question qui se pose, est-ce que les Français vont être aussi early adopters que les Américains par rapport
Je pense pas. Mais en tout cas, c'est un marché en croissance. Donc forcément, tous les acteurs s'y intéressent.
Bien sûr.
Si on fait plus 1 et que le marché fait plus 20, c'est forcément des opportunités.
Voilà. En parlant d'innovation, Olivier, on va s'intéresser au secteur de la food tech en Europe. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un article, mais une étude publiée par Digital Food Lab. C'est la food tech en Europe en 2020. Alors Olivier, dans cette quatrième édition du rapport de la food tech, on confirme que les secteurs attirent toujours beaucoup d'argent.
Oui, en 2020, alors les amis Digital Food Lab ont calculé que les startups européennes de la food tech, elles ont levé à peu près 2,7 milliards d'euros. Alors, c'est la même chose qu'en 2019.
D'accord.
Donc, bon, il n'y a pas forcément de croissance particulière.
Mais ce qui est intéressant de souligner cette année de 2020, c'est que historiquement, en fait, les levées se font sur l'agriculture et la distribution, notamment la livraison. Hein. On a vu beaucoup des levées autour de la livraison. Mais en 2020, ça a été un point de bascule avec une augmentation de 245% des investissements dans la transformation. Ça veut dire au milieu de la chaîne des valeurs, comme des innovations produits ou les cloud kitchens. Et cette croissance est d'autant plus notable dans les startups travaillant les protéines animales, qui ont levé trois fois plus d'argent qu'en 2019.
Les alternatives. Voilà, on en parlait juste avant. Donc effectivement, vous avez eu des exemples de startups qui travaillent sur toutes ces alternatives à la viande ou aux produits laitiers ou aux œufs à partir de protéines végétales.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un vrai développement et que Digital Food Lab a mis en avant. Et du coup, finalement, en fait, si les startups européennes ont levé quand même quasiment 3 milliards d'euros, l'ensemble de l'écosystème food tech mondial, elle représente plus que 12%. Donc, il y a des grosses levées de fonds
en
dehors
Asie,
de l'Europe.
Aux États-Unis. Ouais. Quoi. Ouais, bien sûr, ils innovent beaucoup, surtout avec les protéines alternatives. On découvre d'autres chiffres intéressants, en fait, comme notamment la plus grosse levée en Europe en 2020 avec 290 millions d'euros pour Karma Kitchen. C'est une cloud kitchen britannique. Et aussi, on apprend qu'il y a deux nouvelles licornes européennes en 2020. On rappelle que licorne, c'est une société valorisée à plus d'un milliard d'euros. Donc, Gusto, une société anglaise qui propose des kits repas, on va dire à la Kitok.
Ouais.
Et Oatly, une boîte suédoise qui propose du lait végétal, justement.
Voilà, et Oatly qui travaille notamment sur une entrée en bourse cette année.
Ah ouais,
ouais.
Intéressant. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre par rapport à cette étude? Il y a deux autres chiffres clés qui ressortent. En fait, d'abord, c'est l'investissement moyen par les startups qui continue d'augmenter et a atteint 1,2 million en 2020 versus 600 000 euros en 2017. Donc, on a des tickets de plus en plus importants qui sont investis. Et aussi que la France est consolide comme le deuxième hub le plus important en Europe avec 600 millions d'euros levés, très proche du leader UK avec 634 millions.
Oui, et du coup, si, ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, vous pouvez aller voir sur la newsletter de cette semaine. J'ai mis le lien de téléchargement.
Et Olivier, on va terminer avec un dernier article intéressant sur les vins et l'innovation. C'est sur Financial Times. Space Wine, What a Trip to the Stars Did for a Case of Petrus. Vin de l'espace, c'est qu'un voyage dans les étoiles a porté une caisse de Petrus. Alors Olivier, pour ce dernier article, on met les voiles direction l'espace parce qu'on va parler des Bordeaux Petrus qui a pris place dans la Station spatiale internationale.
Oui, et c'est une start-up française qui s'appelle Space Cargo Unlimited qui s'est fixée finalement pour objectif de déterminer si les réponses aux problèmes de l'agriculture terrestre pouvaient se trouver au-delà de notre planète Terre.
Tout à fait.
Et donc, ils ont prévu de faire 6 expériences au cours des prochaines années sous la bannière d'une mission qui s'appelle Mission Wise. Et c'est du coup un programme de recherche privé hein, qui a été lancé par le cofondateur de la start-up.
Mm-hmm.
Et dans ce cadre-là... un des essais, c'était envoyer 12 bouteilles de Petrus dans la Station spatiale internationale hein, pour voir comment le vin allait réagir. Donc, les bouteilles sont revenues sur Terre après. Hein.
On fait souvent ça, mais on met les bouteilles, par exemple, on les met
dans la mer,
et ça, on les laisse vieillir 12 mois, 24 mois pour voir un peu les effets de la mer sur les vins. Et c'est souvent positive. Par contre, pour l'espace, ce n'était pas une opération très facile à mettre en place parce que la NASA interdit normalement l'alcool dans les missions spatiales. On comprend pourquoi. Donc, obtenir du vin à bord est un véritable défi. Et de plus, toute matière potentiellement dangereuse, et les Petrus est conditionnée dans des bouteilles en verre avec bouchon, doit être soumise à des mesures de sécurité strictes, en fait.
Oui, je pense qu'avec du champagne, ça aurait été compliqué à faire. Hein. mais en tout cas, effectivement, c'est un article très, très intéressant sur la manière dont ils ont réussi à avoir un contrat avec la NASA. Hein. On est une start-up française, on a réussi à envoyer du vin dans l'espace. Moi, je trouve ça top.
Ouais.
Et finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi, avant cette expérience-là, ils ont envoyé de la vigne, des pieds de vigne dans l'espace pour voir si la gravité avait un impact sur les pieds de vigne. Et ils ont fait revenir ces pieds de vigne en France. Donc là, pour l'instant, ils sont en train, a priori, de les replanter pour voir s'ils poussent mieux, s'il y a des choses. Donc je pense que c'est des expériences assez intéressantes, moi.
On va demain avoir des AOC Lune ou AOC Jupiter, quoi.
Voilà, c'est ça. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, le résultat, les bouteilles de Petrus, il y en a une ou deux qui ont été ouvertes. Hein.
Mm-hmm.
Et a priori, les gens qui ont goûté ça ont trouvé des saveurs qui étaient différentes. Dans le sens où, en fait, il y avait des saveurs qu'on retrouvait dans des vins de Petrus qui avaient normalement un peu plus de bouteilles, qui avaient un peu plus vieilli que ces bouteilles-là. Donc, c'est assez intéressant. Ça accélère le vieillissement du vin, oui. A priori.
Après, ce qu'ils disent, c'est que les vins aussi ont été gardés à une température constante de 18 à 20 degrés, ce qui est plutôt élevé. Ouais. Donc, du coup, évidemment, ça va accélérer un peu le processus de vieillissement. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quel est le modèle économique de cette start-up, en fait?
C'est vrai.
Il reste un peu flou, hein, même s'ils affichent la volonté des retours sur investissement grâce à un partenariat avec les groupes Mercier, par exemple, pour revendre des clones des sarments partis dans l'espace.
Alors, est-ce que ce sont des pieds de vigne qui vont mieux résister au gel que les pieds qu'on a actuellement? Enfin, voilà, c'est des vraies questions, hein, finalement. C'est des expériences intéressantes qui doivent coûter assez cher. Donc, c'est vrai, effectivement, quel est le business model derrière pour cette entreprise? On est preneurs, hein, peut-être qu'ils peuvent nous écrire pour nous en dire plus.
Bien sûr, mais ce qui est intéressant à souligner, ces recherches sont tout à fait d'actualité. Lorsqu'on voit que sur Terre, par exemple, les épisodes de dégel ont des conséquences désastreuses sur nos productions viticoles et arboricoles. Donc, en fait, peut-être demain, la solution pour...
C'est possible.
C'est possible, au moins de tester le comportement des vignes dans des situations extrêmes comme l'espace.
Tout à fait.
Bon, Olivier, on va s'arrêter là pour cette semaine. C'était un plaisir comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Hits Business.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique « Newsletter ».
Bonne semaine et à bientôt.